coq chanter et jour paraît, tout s'est debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, dans Le Coq Chante, nous allons tenter de répondre à cette question essentielle. Comment concilier agriculture et qualité de l'air? Pour cela, nous vous amenons au colloque organisé à Paris le 6 février dernier par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Fédération Atmo-France en collaboration avec de nombreux autres partenaires. La loi reconnaît à chacun d'entre nous le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Dans le même temps, se nourrir est un impératif pour tout être vivant. Il se trouve que les activités agricoles jouent un rôle important dans la pollution atmosphérique. Et les chercheurs estiment que les dégradations dues à l'agriculture vont probablement continuer à s'intensifier dans les pays développés et dans les pays en développement. Les projections concernant l'élevage laissent prévoir une augmentation de 60% des émissions d'ammoniac provenant des excréments d'animaux. Il faut y ajouter les feux de forêt et les déboisements. Notre premier interlocuteur se nomme Antoine Henrion. Il est président de la Chambre d'agriculture de Moselle et responsable du dossier qualité de l'air à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
La question qu'on s'est posée, c'est effectivement quels sont les interlocuteurs avec qui il faut qu'on s'unisse, qu'on ait des partenariats forts pour pouvoir avoir une expertise et finalement une banque de solutions à proposer aux agriculteurs par rapport à la qualité de l'air. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché de la Fédération Atmo France, qui regroupe les associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air, pour justement avoir une expertise de la donnée. Qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'il y a dans l'air qui concerne l'agriculture? Et à partir de cette question, on a projeté une collaboration depuis 2015 et aujourd'hui on a restitué entre autres les actions qu'on mène conjointement pour trouver des solutions, pour mettre en situation et puis aussi pour avoir des dynamiques territoriales sur la qualité de l'air.
Ce qui est essentiel de retenir dans cette affaire tient en deux données. Premièrement, l'agriculture pollue l'air. Deuxièmement, l'agriculture est à son tour négativement impactée par cette pollution de l'air. Premier symbole que l'homme perçoit de cette pollution de l'air, les odeurs.
Oui, les odeurs, notamment liées à l'élevage, hein, principalement. Mais à partir des odeurs, on a toute la dynamique des rejets de l'élevage, des types de bâtiments. Et donc se pose comme d'autres dynamiques la question des investissements en termes de choix d'équipement, d'installation, de bâtiments, mais aussi, et ça a été un fil rouge tout au long de la journée aujourd'hui également, la formation des agriculteurs, l'information des agriculteurs et puis la communication des agriculteurs à travers leur environnement qui sont des relations qu'on doit tisser avec les consommateurs et les citoyens.
Alors, deuxième manifestation, les produits chimiques, on a parlé aujourd'hui jusqu'à 50 substances.
En fait, ça a été l'ammoniac principalement issu des fertilisants, des effluents d'élevage, des fertilisants minéraux, des engrais, et puis les particules émises soit par ces mêmes engrais ou effluents, soit par les travaux des champs, les travaux du sol, les travaux de récolte. Et la combinaison de ces émetteurs agricoles avec d'autres émetteurs, et c'est là où c'est complexe et intéressant, parce que d'abord on n'est pas responsable unique, on est co-responsable. Je veux parler des transports et je veux parler des émissions, des chauffages, que ce soit pour l'habitat, l'urbain, l'industrie.
Je vais essayer de voir ce nouveau problème, c'est-à-dire que tous les produits ne se diffusent pas dans l'atmosphère de la même façon, et il y en a qui vont très loin, il y en a qui vont pas loin.
Oui, il y a toutes les dynamiques, effectivement, qu'il faut vraiment inventorier en fonction des molécules, en fonction des conditions d'application de ces molécules. Et on a pointé aussi du doigt des contradictions, hein, de dire qu'il faut viser, quand on épand des produits, le peu de vent, le minimum de vent. Et on sait très bien que le vent a une action de dilution, hein, dans l'atmosphère des polluants. Donc il y a des contradictions à gérer. Il en est de même pour des contradictions qu'on a à gérer entre les réglementations sur les nitrates, qui sont des polluants issus des engrais et des effluents d'élevage dans l'eau, et puis ces mêmes nitrates, les conditions d'emploi par rapport à l'air. Il y a toutes ces contradictions, effectivement, qu'on a bien mis en avant aujourd'hui, qu'il faudra qu'on gère, qu'on juxtapose, et puis qu'on rende cohérent, parce que l'agriculteur, on l'a vu aussi aujourd'hui, il a à gérer toutes ces problématiques, les unes à côté des autres ou les unes sur les autres, par rapport à l'exercice d'agriculteur sur son exploitation.
Autre élément, j'avoue que moi-même, je n'y avais pas pensé avant de lire vos textes, le carburant que l'agriculteur utilise sur sa ferme.
Oui, le carburant est un facteur d'émission de pollution atmosphérique, même si le parc actuel des tracteurs, principalement, évolue avec des normes anti-pollution au même titre que le font le parc automobile et les poids lourds. Donc on est vers des générations de moteurs qui polluent de moins en moins. Et puis on a aussi des solutions avec des carburants renouvelables pour l'agriculture, que l'on produit par ailleurs, qui peuvent aussi contribuer à l'atténuation d'émissions de polluants atmosphériques, notamment par les engins agricoles.
Deuxième phase de notre entretien, ça, on a vu comment l'agriculture pollue l'air. Maintenant, et cette pollution a un impact sur la vie de l'agriculteur, les rendements de ses champs et tout ça.
Oui, il y a un impact sur les productions, c'est l'ozone, hein, ce qu'on appelle l'effet ozone dû à la, en association, je dirais, des différents polluants de l'air. Donc ça impacte significativement la production. Il y a le paramètre santé, alors santé des agriculteurs, santé des citoyens, ça a été dit aujourd'hui. Quand on pense que, effectivement, après l'alcool, le tabagisme, l'air a un impact en termes de décès sur notre pays, dans nos pays, important. Donc il faut aussi qu'on ait cette prise de conscience. Et effectivement, sur l'agriculteur qui manipule ou qui est un utilisateur de mise en œuvre de ces produits ou intrants qui concourent à être des émetteurs sur l'air, ben, il faut qu'on ait aussi à la fois une feuille de route pour prendre des mesures et aussi une communication décomplexée, je dirais, assumée, responsable par rapport à notre acte de production et toutes les précautions qui doivent s'y rattacher.
Donc vous avez organisé ce colloque aujourd'hui pour mettre ensemble tous ceux qui travaillent dans cette thématique-là pour discuter, s'échanger et puis trouver une porte de sortie, quoi, la meilleure formule.
On a d'abord, le matin, on a eu un temps d'échange entre les réseaux Chambre d'agriculture, les réseaux Atmo France, mesure de la qualité de l'air, pour voir quelles sont les actions qu'on peut mener en commun, le travail qu'on peut mener ensemble pour justement proposer des solutions, faire en sorte qu'il y ait des choix assumés par l'agriculture et puis qu'on communique aussi sur le fait qu'il y a une combinaison de polluants dans l'air qui sont émis par différents secteurs d'activité, dont l'agriculture. Donc là aussi, ça a été une manière aujourd'hui de flécher les partenariats potentiels. Ça a été l'après-midi aussi le champ des intervenants, autant les ministères que des fédérations d'agriculteurs. Les associations environnementales se sont exprimées. Donc, simplement pour dire qu'on met tout le monde autour de la table pour traiter le sujet et l'agriculture répond en mettant en avant ses réalités d'exploitation et en demandant à ce que collectivement on assume des choix et des solutions partagées dans le temps.
Je vous remercie, je sais que vous êtes attendu.
Oui, merci à vous de m'avoir auditionné et en tout cas c'est avec plaisir qu'on va continuer à s'investir sur ce dossier.
Il Il y a en France un dispositif national pour la surveillance de cette qualité de l'air. C'est Atmo France qui regroupe les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, ou AASQA. Ce dispositif national emploie plus de 550 experts, c'est-à-dire des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, des chargés de communication. Leur mission principale consiste à surveiller, prévoir, informer et réaliser des études sur la qualité de l'air ambiant. Guy Berger est le président de la Fédération Atmo de France.
Alors c'est un raccourci d'atmosphère qui comprend l'air mais pas que. Et c'est ce qui occupe l'activité des différentes structures, associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui constitue le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air avec le ministère et le laboratoire de surveillance de la qualité de l'air.
On a dit qu'il y a plusieurs structures qui travaillent avec vous, que vous fédérez.
Tout à fait. Il y en a 18 qui sont situées à la fois sur le territoire métropolitain et aussi sur le territoire d'outre-mer, puisque chacune des régions ou territoires ou départements d'outre-mer est pourvue d'une de ces ASQA, AASQA, Association agréée de surveillance de la qualité de l'air.
Ah oui, d'accord, parce que quand j'ai vu le sigle, je me suis demandé c'est quoi et qui a imaginé un tel sigle.
Ah, c'est un peu rébarbatif, c'est pas facile à prononcer en plus. Alors c'est pour ça qu'un raccourci ATMO, ça permet de mieux comprendre.
Mais comment on mesure la qualité de l'air?
Alors, à partir d'appareils, on a des capteurs qui sont répartis de manière alors à la fois fixe, qui captent en permanence, avec des liaisons radio qui permettent de réceptionner ça dans nos bureaux. Donc en continu, on a une information. Ils sont répartis suivant différentes, ce qu'on appelle des typologies. Il y en a en proximité de trafic, il y en a en proximité des centres industriels, il y en a en campagne, et puis on a ce qu'on appelle les stations de fond qui permettent d'avoir le bruit de fond, quasiment le niveau zéro de la pollution.
Et qu'est-ce qu'on mesure ?
Alors, attendez, en complément, on a des moyens mobiles qui permettent de les déplacer. Et qu'est-ce qu'on mesure? Alors, on mesure des polluants réglementés, les microparticules, les oxydes d'azote, le benzène, toute une folitude, enfin, une quinzaine de polluants qui sont réglementés. Et puis, en fonction des problématiques locales, on peut aller investiguer des champs qui sont un peu complémentaires, notamment les pesticides qui, là, sont en phase exploratoire, mais antérieurement, il y a eu des recherches ont été faites par différentes ASQA.
Alors, si vous surveillez la qualité de l'air, ce n'est pas sans raison. J'ai entendu tout à l'heure que c'était une question de santé publique.
Alors, l'OMS a montré que, notamment, les microparticules avaient un effet cancérigène certain. Et effectivement, l'impact sur la santé est avéré. Il y a une enquête qui a été menée par le Sénat et qui a mis en avant les coûts globaux, mais aussi les coûts sur la santé, oui.
Moi, j'ai toujours vu accuser la circulation, les usines, mais aujourd'hui, savoir que l'agriculture, ça pollue, c'est nouveau, ça.
Alors, ça a été une des découvertes un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des combinaisons de produits, notamment l'ammoniac, qui peut se combiner avec d'autres produits pour créer des microparticules.
C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ont des effets par eux-mêmes, mais ils arrivent à se combiner avec d'autres pour amplifier d'autres effets.
Tout à fait, tout à fait. L'ozone, par exemple, personne ne produit de l'ozone. Mais c'est la résultante des oxydes d'azote qui sont présents et puis de conditions climatiques particulières, notamment la chaleur.
Ah, c'est pour ça qu'en été, par exemple, quand les yeux piquent, on dit qu'il y a un pic d'ozone.
Tout à fait, voilà. Enfin, on ne dit pas qu'il y a un pic d'ozone, mais les yeux qui piquent, c'est la résultante du pic d'ozone. Oui. Et qui a d'ailleurs un impact sur l'agriculture, puisque l'ozone diminue les rendements et affecte les végétaux.
Comment ?
Par la photosynthèse est altérée par l'ozone.
Ah oui, parce qu'on oublie souvent que c'est des êtres vivants, eux aussi.
Et oui. Et en plus, l'ozone a double effet, notamment sur les pollens allergisants, puisque les pollens, êtres vivants, sont aussi affectés, donc ils se défendent et augmentent leur capacité allergisante. Et en même temps, nos défenses humaines sont altérées par l'ozone, donc on a des produits plus allergisants et on a une barrière qui est fragilisée.
Bon, Heureusement, parce que quand j'ai commencé à suivre le colloque au début, vous, scientifiques, vous nous avez fait peur. Et puis après, vous nous avez tranquillisé en disant qu'il y avait des solutions. Et concernant l'agriculture, ce que vous appelez les bonnes pratiques.
Alors, elles sont diverses suivant l'objectif recherché. Sur la production d'azote, donc il y a tout ce qui vient des...
J'ai entendu parler de maîtriser la fertilisation azotée.
Tout à fait. Un exemple concret, un agriculteur en Lorraine a remarqué avec les chercheurs que le moment le plus opportun pour apporter sa fertilisation, c'est ce qu'on appelle le point de rosée, c'est-à-dire très tôt le matin, où la plante va beaucoup mieux assimiler l'apport. Et donc, avec un système d'épandage adapté qui permet de doser quasiment à la goutte les besoins, il a diminué par deux ses apports. Et donc, le gain économique, il est direct. Pareil sur les lisiers, la couverture des lisiers permet d'éviter l'émanation de méthane, qui est un gaz fortement émetteur de CO2. Voilà, donc simplement la couverture.
Expliquez-moi cette couverture, comment on fait ?
Un couvert, une...
On met une bâche et puis c'est
tout. Voilà, tout simplement, ça évite qu'il y ait une émanation dans l'air.
Ah ben c'est tout simple.
Tout simple, voilà. Mais des choses très simples.
Il y avait des agriculteurs et des représentants de fédération d'agriculteurs dans la salle, mais pour une fois, ils n'ont pas crié.
Parce que le matin, on avait réussi à discuter.
Oui, le matin, vous avez déminé.
Non, pas déminé, mais les conditions de travail ont été faites pour qu'on croise nos vues, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à connaître nos limites, nos contraintes, le quotidien et ce qu'on pouvait faire ensemble et ce qu'il fallait éviter de faire.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que bon, il y a cette préoccupation de la qualité de l'air, mais il ne faut pas oublier aussi que le paysan, l'agriculteur, il a des contraintes.
Il est là pour gagner de l'argent, pour nous faire vivre, parce que c'est lui qui nous fournit la nourriture, il ne faut pas l'oublier. S'il n'y avait pas d'agriculteurs, nous aurions quelques problèmes d'alimentation. Voilà. Donc il joue un rôle social aussi.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Les chiffres sont connus. Le tout dépend de la substance polluante. Les scientifiques distinguent quatre grands secteurs. En France, par exemple, les transports représentent 16% des émissions de particules fines, 19% des particules secondaires et 59% des émissions d'oxyde et d'azote. Le secteur résidentiel et l'industrie représentent un gros pourcentage. Et enfin, l'agriculture, secteur qui représente 53% des poussières en suspension et surtout 97% des émissions d'ammoniac. L'utilisation des produits chimiques et les déchets agricoles est un problème considérable dans presque tous les pays développés et elle le devient de plus en plus dans les pays en développement. Au niveau mondial, l'affaire ne va pas s'arranger quand on sait que tous les pays cherchent à moderniser et à rentabiliser leur agriculture. D'autant qu'on parle de 50 substances générées par l'agriculture. Charlotte Lepitre est coordonnatrice du réseau Santé-Environnement à France Nature-Environnement, qui est l'association française des environnements de protection de la nature et de l'environnement. Elle est la porte-parole des mouvements de 3500 associations regroupées au sein de 80 organisations adhérentes présentes sur tous les territoires français en métropole et outre-mer.
Lorsqu'on parle d'agriculture et d'environnement, on a tout de suite pensé à la biodiversité, à l'eau. Et l'air, finalement, c'est nouveau. C'est une nouvelle thématique qui a émergé, que France Nature Environnement a accompagnée afin de la faire monter dans l'intérêt général, aussi bien l'intérêt public, aussi bien professionnel, donc chez les agriculteurs ou chez les professionnels de santé, qu'au niveau de l'intérêt politique. Donc on a vraiment essayé de mettre l'air au goût du jour, d'expliquer pourquoi l'agriculture avait également une responsabilité dans la pollution de l'air et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'améliorer. Et c'est là où nous, on est venu expliquer, avec l'appui notamment des scientifiques, que les émissions de l'agriculture menaient par la suite à des pics de pollution. Et en plus, on retrouvait dans l'air notamment des substances chimiques telles que les phytos ou les pesticides qui peuvent se retrouver dans l'air et qui touchent notamment les agriculteurs. Donc c'est pour la santé de l'agriculteur, la santé des riverains, des personnes autour de l'agriculture, voire même de la santé des personnes en ville.
Comment l'activité agricole pollue l'air? Comment ça se passe?
Alors, il y a différents types de polluants qui vont différencier en fonction de l'activité agricole. C'est-à-dire que si on va avoir une exploitation agricole qui va faire de l'élevage ou une exploitation agricole qui sera des grandes cultures, et même un verger, tout ça va différencier, on va avoir différents types de polluants. Mais lorsque l'on prend les grands polluants atmosphériques liés à l'agriculture, on parle beaucoup notamment d'ammoniac. L'ammoniac est un polluant qui est issu notamment de l'élevage lié aux déjections animales et à l'épandage en fait de ces effluents sur les champs agricoles. Et tout ça émet des gaz, un gaz qui s'appelle l'ammoniac, qui dans l'air va se recombiner avec d'autres polluants pour former les particules fines. Ces particules fines dont on parle beaucoup parce qu'elles, elles sont mesurées dans l'air et ce sont elles qui vont nous donner un indice de la pollution que l'on a dans l'air. Et cet ammoniac, il est émis à 98% par l'agriculture. Donc c'est quasiment uniquement l'agriculture qui émet ce polluant-là. Ce polluant qui est responsable pour la formation de certaines particules fines. Et ces particules fines-là, la science aujourd'hui sait très bien qu'elle a un impact sur l'air, c'est-à-dire que ces particules vont rentrer dans nos voies respiratoires et vont avoir un fort impact sur notre santé. Elles vont être irritantes pour les voies respiratoires, elles vont même causer parfois des problèmes de cancer du poumon, de cancer des voies respiratoires, et voire les plus petites particules fines vont pouvoir passer les barrières du sang et aller s'accumuler dans nos organes vitaux et provoquer notamment des maladies cardiaques ou des maladies neurodégénératives.
Que faire alors? Parce que le paysan, il est obligé d'utiliser ces substances-là dans son activité.
Non, l'agriculteur n'est pas obligé d'utiliser ces substances dans son activité. Il y a aujourd'hui des moyens de changer de pratique, de changer de manière de travailler et d'investir dans, soit dans du matériel, soit dans un changement de fonctionnement afin de réduire l'impact environnemental et l'impact notamment de la pollution de l'air. Donc l'agriculteur peut changer de pratique.
En faisant quoi ?
Ça va dépendre de son activité, mais ça peut aussi bien en changeant la manière dont il fonctionne avec son élevage, c'est-à-dire avec des raclages des effluents, la manière dont il va intégrer les effluents dans le sol, donc avec des pendillards qui vont permettre directement de mettre les effluents dans le sol et donc de limiter que ça parte dans l'atmosphère. Ça peut également, en limitant les intrants chimiques, en limitant les pesticides, en limitant les phytopharmaceutiques, et donc en changeant la matière agricole vers une agroécologie, c'est-à-dire que on met différentes plantes ensemble, ce qui va permettre de limiter le besoin d'intrants parce que les plantes vont se protéger entre elles. Ça va être d'intégrer des arbres, d'intégrer des éléments environnementaux qui vont permettre de réduire l'utilisation de ces substances et donc de limiter l'impact environnemental.
Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'on connaît par exemple du cultif du blé ou du maïs. On connaît une plante dont le système racinaire va protéger mon maïs et va générer, je ne vais pas dire que c'est de l'engrais, mais va en tout cas générer un fertilisant pour ce que je cultive. Et on connaît comme ça des plantes qui s'aident entre elles et puis on peut les combiner.
Exactement. On connaît des plantes entre elles qui vont bien travailler ensemble et qui vont permettre de limiter les intrants. On connaît également des systèmes agricoles où on change de culture sur le champ toutes les années. C'est une diversification de culture, ce qui permet au sol d'être en bonne forme parce qu'il ne va pas avoir toujours la même culture sur le sol qui prend toujours les mêmes minéraux, mais ça va varier, ça va changer, ça va évoluer. Et tout ça permet finalement d'avoir un sol, d'avoir une plante en meilleure santé et également d'éviter en fait l'intrusion de pestes, on appelle ça donc de maladies notamment sur les plantes parce qu'on change de plante régulièrement. Donc finalement, les maladies ne vont pas retrouver un hôte régulièrement et on aura moins de maladies. C'est l'agroécologie notamment, c'est différentes mesures comme ça qui sont adaptées en fonction du type de culture, en fonction de la météo, et ces solutions, on les a et on veut les proposer aux agriculteurs, leur expliquer comment faire pour changer leur manière de fonctionnement. Et finalement, c'est ça qui est compliqué pour l'agriculteur, c'est de changer sa manière de vivre, sa manière de travailler, parce que tous les jours, il est dans son travail et il faut qu'il change. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un bon accompagnement pour lui dire par où il commence, comment il va faire son changement, tranquillement, dans le temps, mais changer ses pratiques pour sa santé et pour l'environnement.
Ben, nous tous, quand on a un métier, quand on a un travail, c'est répétitif, on a nos manies, on a pris des habitudes. Et changer, ça prend du temps.
Absolument, changer, ça prend du temps. Et changer, c'est compliqué parce que on a notre programme, on a notre agenda, on a des choses à faire. Et donc, lorsqu'il faut que l'on change notre manière de fonctionner, il faut qu'on ait un plan pour savoir où est-ce qu'on s'en va et pour que les choses se fassent bien avec des bons conseils, pour que l'agriculteur il sache qu'il va avoir des revenus pour vivre et qu'on peut faire en sorte que les choses se poursuivent pour l'agriculteur, mais avec un meilleur respect de sa santé et de l'environnement. On connaît les barrières et on sait comment les dépasser, comment mettre en place des choses sur le terrain et que ça marche.
Donc, je vous remercie.
Merci à vous.
Nous étions au siège parisien de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'occasion du colloque scientifique « Comment concilier agriculture et qualité de l'air » qui s'est tenu le 6 février dernier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, le Coq Chante. Avant de se quitter, ce petit rappel. Vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est désormais simple. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.